que vous avez pu écouter peut-être quelques-unes, un des messages précédents, parce que là on est au numéro 5 déjà, hein. Ben, juste pour revoir cela assez rapidement, Moïse était déjà un enfant favorisé. On a parlé de ses parents croyants, ça a été une grande aide pour lui. On a parlé du fait que Dieu lui a fait par un concours de circonstances vraiment exceptionnelles entrer dans la famille, hein, parce que la famille de la fille du pharaon, il était un fils adopté. Et là, il a bénéficié de tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, hein, et notamment une éducation qui, humainement parlant, aurait pu le préparer pour le travail qu'il avait accompli par la suite de diriger toute une nation. Ça s'est tourné mal, comme vous le savez. Le jour où il avait, à 40 ans, il a décidé de renoncer à tous les privilèges et richesses que l'Égypte pouvait lui offrir, et de s'identifier avec ses vrais frères, les Juifs, eh ben, il a tué un Égyptien, vous vous souvenez de cette histoire-là, pour défendre un des siens. Et puis le lendemain, il pensait que tout était oublié. Mais voilà, il voyait deux de ses frères qui se disputaient entre eux. Et l'un qui était en tort, il dit, ben, qui t'a fait juge sur les magistrats sur nous? Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et tout d'un coup, il s'est rendu compte que l'histoire n'était pas aussi bien enfouée dans le sable comme le cadavre de l'Égyptien qu'il avait tué. Et la chose s'était ébruitée, et il devait fuir. Et il est devenu donc un genre de réfugié, fugitif, dans un terre qui connaissait pas autant que ça. Il était chez les Madianites, il a pu entrer dans la famille, se marier, et puis il a passé les 40 ans suivants à faire quelque chose qui était pour lui une abomination, normalement, hein, le travail de berger. Et c'est là, celui qui était élevé pour être un prince en Égypte se trouve derrière les troupeaux dans le désert. Mais là, dans le désert, et Dieu l'a rencontré et l'a appelé. Et ça me rappelle que, quelles que soient les circonstances de notre vie, au moment où il décide, Dieu peut nous rencontrer. Et il peut avoir un mot vraiment spécifique pour nous. Peut-être c'est aujourd'hui pour vous. Que Dieu a un mot pour vous dire ce matin. Et en tout cas, il était appelé par Dieu, et Dieu lui dit, maintenant tu vas retourner voir le pharaon, et tu vas lui demander en mon nom de libérer mon peuple. Et alors, il était accompagné de son frère aîné Aaron. Alors c'est là où on a demandé ce matin, dans le premier culte, quels âges ils devaient avoir tous les deux. Mais, Moïse, je pense que c'est lui, hein, Moïse. Il ne prenait pas des photos à l'époque, mais je pense que ça doit être lui, là, il tient le bâton. Quoique, c'est intéressant, dans les premières plaies, c'est Aaron qui manie le bâton. Et puis après, on voit que c'est dans la main de Moïse, où il lève la main, tout simplement. Mais les voilà, ils avaient quel âge à l'époque? Moïse, il avait 80 ans. Son frère avait 3 ans de plus. C'est pour dire, comme on l'avait dit ce matin même, que Dieu peut se servir de nous comme ses ambassadeurs, comme ses serviteurs, quel que soit notre âge. Et le voilà qui se présente devant le pharaon. C'est l'histoire des 10 plaies en Égypte, n'est-ce pas? Il les annonce les uns après les autres. Et nous connaissons l'issue de cette histoire-là. La mort de tous ses enfants. La mort aussi, la destruction de tout ce qui était la fierté de l'armée de l'Égypte. C'était les chars. Il n'y avait personne dans tout le Moyen-Orient qui avait des bataillons de chars comme avait l'Égypte. C'était leur fierté. Et c'est ceux-là qui devaient poursuivre et les Israélites les ramener de force en Égypte. Mais Dieu a ouvert la mer Rouge. C'est fascinant que cette histoire-là, ouvert la mer Rouge, a permis à son peuple de passer. On parle de Dieu qui nous garde. Il est dit dans cette histoire-là que Dieu qui se manifestait dans une colonne de nuée et de feu, normalement cette colonne précédait les Juifs pour leur montrer le chemin. Mais ce soir-là, quand Dieu a ouvert le chemin, la colonne s'est mise derrière pour empêcher les Égyptiens de les atteindre. Ils ont pu tous passer. Et là, nous savons que dans la suite, les Égyptiens ont essayé de suivre, ils étaient engloutis, tous sont périls dans la mer. C'est terrible, cette histoire-là. C'est une tragédie personnelle pour le pharaon, mais aussi pour toute la nation. Et ce qui est incroyable, c'est que tout cela aurait pu être évité. Ce n'était pas inévitable. Pourquoi? Parce que déjà, Dieu avait donné plus d'avertissements de par Moïse, qui a dit au pharaon, parce qu'à chaque fois, pas toutes les fois, mais quand il y a peut-être deux ou trois fois seulement, où il n'a pas prévenu le roi, attention, telle plaie va suivre, hein, il y aura les grenouilles, il y aura la graine, il y aura ceci et cela. Mais de nombreuses fois, eh bien, l'Éternel a averti le roi qu'il change de position. Et puis, ça aurait pu être évité aussi, ben là, il y a un point qui ne vient pas. Je vous dis d'avance, on a découvert ça ce matin. Moi, j'ai préparé tout ça avec PowerPoint, Microsoft, qui n'est pas sur l'ordinateur ici. Je pense qu'il y a eu une incompatibilité entre les deux. Alors, quelquefois, vous aurez des points à remplir. D'accord? Mais là, ce qui devait paraître là, c'est le fait que cela aurait pu être évité. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait grâce. Il a même pardonné ce pharaon. Au moins deux fois dans l'histoire, il était tellement craintif de ce qui se passait qu'il faisait venir Moïse pour réclamer sa prière. Prie pour moi que Dieu enlève telle plaie et qu'il me pardonne mes péchés. Et à chaque fois, Dieu l'a fait tout de suite. Il n'a pas hésité un instant. Et moi, dans de telles circonstances, j'aurais pensé que ce pharaon, il aurait compris que oui, d'accord, ce Dieu, il est exigeant, mais c'est aussi un Dieu de grâce, c'est aussi un Dieu qui est clément et qui veut le bien et assurer le bien de ceux qui font sa volonté. Mais il a fait la sourde oreille, il n'a pas du tout suivi, et ça me rappelle ce que Jésus-Christ il a rencontré, le même genre d'opposition. Il a lamenté vers la fin de sa vie sur la ville de Jérusalem, disant « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses coussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et c'était exactement le cas de Pharaon. Il n'a pas voulu. Il s'est obstiné. C'est pas le... Oui, là, ça parle, on revient maintenant dans celui-ci, mais il y avait encore une autre raison pour laquelle ça aurait pu être évité. C'est que même ses ministres d'État, ces magiciens qu'il avait autour de lui, les gens pour le conseiller, lui disaient, mais laisse-le partir, ne vois-tu pas que le pays est en train d'être détruit, c'est ruiné. Laissez-les partir, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et la Bible nous dit ceci, c'était bien après, hein, le temps de Moïse, mais la Bible nous dit, aujourd'hui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt, et n'endurcissez pas vos cœurs, comme l'a fait le pharaon. Moïse a un message pour nous aujourd'hui. Je ne vais pas me tarder trop sur le pharaon, ni sur toutes ses plaies et toute la partie historique de tout cela, mais la vie même de Moïse. Parce qu'il y a un message pour nous les croyants. Je pense que si je demandais ce matin, qui parmi nous est croyant? Tout le monde leverait la main, hein? On est à l'église, non? Et on se dirait, là. Je viens à l'église. Et vous savez, moi, j'allais à l'église pendant des années. Et je pensais que j'étais bon chrétien longtemps avant de comprendre le message du salut. Et je ne l'étais pas. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on devient chrétien en allant dans une église? C'est difficile de répondre avec les masques. Mais je vois les têtes qui vont le partir. Voilà. Non, on ne devient pas chrétien. Si ça suffisait
ben, je mettrai ma Dacia dans un garage de Mercedes.
Hein? Et ça se transformerait tout de suite en Mercedes, non? Non, forcément pas.
Donc, il faut avoir un changement profond dans notre vie. Il faut rencontrer notre Créateur et qu'il fasse un travail en nous. Et il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors si nous acceptons de faire appel à Jésus, et de le suivre, il va nous conduire vers le Père. Mais ce chemin, ça va passer obligatoirement à la croix, déjà. Où il est mort pour nous, et là, au regard de cette croix, nous ne pouvons que constater que oui, je suis pécheur. Il n'est certainement pas mort pour ses propres péchés. Il est mort pour moi. Mais il n'est pas resté sur la croix. On l'a enterré. Et donc le chemin nous mène vers le tombeau. Mais le tombeau est vide aujourd'hui. Oui, parce que Jésus-Christ, le prince de la vie, il est impossible que la mort le retienne. Il a vaincu la mort. Et il est monté au ciel. Et là, il siège à côté du Père, sur le même trône. Et il attend. Il attend qu'on vienne vers lui dans la foi, qu'on invoque son nom. Et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera
guéri.
Merci. Et c'est comme ça qu'on devient chrétien. Pas simplement en entrant dans une église. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien c'est aujourd'hui le jour de salut, dit la parole de Dieu. Et recevez donc la grâce et le pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard, comme l'a fait le pharaon qui n'a pas su éviter une fin tragique. Ce que j'aimerais voir plutôt, oui, c'est Moïse et les qualités qu'il a laissé Dieu développer dans sa vie. Et je pense qu'en les nommant dans un instant, vous allez vous dire, ouais, il n'était pas comme ça au début, hein, il était tout autre. Il va nous montrer les qualités que nous pouvons avoir si nous aussi nous voulons être serviteurs en ambassadeurs de Dieu. Des qualités comme l'humilité, des qualités comme la fidélité, comme la persévérance. Et aussi, ben, il y a une quatrième, c'est pas venu ce matin, donc il y a une quatrième que nous verrons, la maîtrise de soi. C'est des choses que Dieu a développées dans le cœur de cet homme. Et j'aimerais juste voir ça assez rapidement avec vous ce matin. Moïse, d'abord, était un homme humble. D'ailleurs, voilà ce que Dieu dit par rapport à Moïse dans Nombre 12, verset 3. Et cet homme, Moïse, était très humble. Plus que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. Ça, c'est quelque chose. Ce serait fantastique que sur notre tombe, un jour, on écrive... Voilà, Richard Visser, l'homme le plus humble du monde, mais c'est déjà sur une autre tombe, hein, c'est de Moïse, il était le plus humble de tous les hommes. Et ça signifie qu'il a accepté de jouer un rôle secondaire. Vous savez que depuis son enfance, il était préparé pour devenir un régnant, hein, un grand homme d'État. Mais là, il accepte de prendre un second rôle et de laisser à l'Éternel la loi d'être sauvé. Vous savez qu'au début, 40 ans plus tôt, quand il s'est identifié avec ses frères et a voulu les défendre, il a tué l'Égyptien et tout ça, la Bible nous raconte qu'il pensait en lui-même que ses frères comprendraient que c'était lui le libérateur. Mais ils n'ont pas compris. Et d'ailleurs, c'était pas lui le libérateur, n'est-ce pas? Le vrai libérateur, c'était l'Éternel. Mais laisser la gloire à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. Mais Moïse, il a fait. Et Dieu lui a demandé de dire ceci aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux de vous, charge des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu qui vous a franchi les travaux dont vous chargez les Égyptiens. Et là, bon, Moïse, il entend ça, je dois raconter ça maintenant aux autres Israélites, mais je vais voir lever le petit doigt un petit peu pour demander, moi alors, si c'est toi l'Éternel qui fait tout,
qui va accomplir tout seul cette grande rédemption. Qu'est-ce qui me reste à faire moi? Ben, c'est une bonne question, mais la réponse est tout simple. Il devait être cet ambassadeur pour de Dieu, le porte-parole en quelque sorte devant Pharaon, mais aussi devant les Israélites. Voyez? Et c'est le rôle que nous pouvons avoir aussi, parce que l'apôtre Paul, il dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Dieu. Alors, ça signifiait qu'il devait maintenant, à partir de l'ordre, mettre Dieu en avant, non plus lui-même. Et, vous savez, ça me fait penser à quelqu'un d'autre dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était la prophétie à son sujet le résumait comme ceci. Il est une voix. C'est tout. On ne parle même pas d'une personne en entier. T'es une voix. Oui, mais c'est le travail de l'ambassadeur, hein, de parler. Et tu es la voix. Et il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors, qui était la lumière du monde? Christ. Et il devait dire, voilà, c'est lui, c'est lui. Oublie-moi. D'ailleurs, il a dit, il faut qu'il, Jésus, croisse et que je diminue. Humilité. Et c'est ce que Moïse devait faire également. Vous savez, on préfère tous être comme ça. Hein? On préfère tous être celui qui donne les ordres ou qui sommes en haut de la pyramide, n'est-ce pas, et tout le monde est là pour nous servir. Mais qu'est-ce que dit Jésus-Christ à ce sujet-là? Donc, Matthieu, ça ne viendra pas non plus. Hein. Matthieu 23, verset 11, vous pouvez le noter. Mais c'est là où Jésus-Christ dit, celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. D'accord? Vous voulez être grand? Vous avez des ambitions? D'accord, d'accord. Mais alors, acceptez d'être le serviteur. Et puis, Moïse a entendu une parole extraordinaire à partir du moment où finalement, c'était pas évident pour lui au départ, hein. Vous savez, il a beaucoup résisté à cet appel de Dieu. Mais à partir du moment où il commence à agir, Dieu lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Je lis dans Exode chapitre 7, verset 1, « Vois, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. » Vous vous rendez compte? Il ne pouvait pas être au plus haut. Vous savez que le Pharaon se considérait comme un demi-jour de Dieu. Vous savez que tous les ans, en Égypte, même le Pharaon devait accepter de faire un genre de cérémonie, aller dans les temples de Aton, et là recevoir de nouveau, hein, en quelque sorte, la bénédiction de ce Dieu païen pour régner en son nom. Il se considérait comme un Dieu. Mais voilà ce que l'Éternel, le vrai Dieu, dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est fantastique. Et il y a un autre verset qui ne viendra pas non plus, mais Exode chapitre 11, verset 3, juste avant la dernière plaie, qui est la mort des premiers-nés, il est remarqué que Moïse était très considéré en Égypte parmi les serviteurs de Pharaon et aussi parmi le peuple. Et c'est Dieu qui a fait ça pour lui. Et je pense que nous avons quelque chose à apprendre là aussi pour nous qui est important si nous voulons être ambassadeurs pour Dieu. Jacques nous dit comme cela, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez? Le prochain verset ne viendra pas non plus, mais il dit à peu près la même chose. C'est Pierre qui ajoute quand même une phrase qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je préfère que Dieu ne pas me trouver en résistance contre l'Éternel qui résiste contre moi, n'est-ce pas? Alors il faut que je m'humilie devant lui. Voilà le principe que nous devons apprendre, je crois, dans la parole de Dieu, si nous nous occupons de l'œuvre de Dieu. Et que nous acceptons, même si à nos yeux c'est d'accepter un rôle secondaire, moins glorieux, si nous nous occupons de l'œuvre de Dieu, il s'occupera de notre gloire. Humilité. C'est pas quelque chose qui est inné en nous, c'est pas quelque chose
Il n'est pas Moïse non plus, mais Dieu l'a créé. Mais ce n'est pas la seule qualité que nous voyons en lui, nous voyons aussi fidélité. Fidélité. Alors j'ai mis quelque chose ici parce que quand j'entends ce mot fidélité, je ne peux m'empêcher de penser à mon père qui a travaillé pour cette compagnie-là, Radio Corporation of America. Et c'est, je pense que la marque existe toujours. Mais la compagnie peut-être n'existe plus. C'était une compagnie assez ancienne qui était une des premières à fabriquer, bon, comme vous voyez ici, des gramophones, hein, des genres de tourne-disques à l'époque, et tout ça s'est perfectionné. Et cette compagnie était très très fière de la qualité de ses enregistrements. Et c'était une si haute qualité que même un chien qui écoutait la voix de son maître sur le gramophone ne pouvait faire la différence. Ce qu'il entendait de l'appareil était exactement la même voix que son maître. Alors, une qualité comme ça, c'est de la, comment on dit, la haute fidélité, n'est-ce pas? Et la haute fidélité, ça vient, en anglais, c'est high fidelity, et high fidelity, vous prenez le H-I de high et le F-I de fidélité, et vous avez IFI. Maintenant, je vous demande, est-ce que vous êtes un chrétien IFI? Est-ce que lorsque le monde vous voit ou vous entend, est-ce qu'il entend là la voix de l'Éternel? Est-ce qu'il voit en vous l'Éternel? Christian nous a posé la question tout à l'heure par rapport à ce titre de livre, « Que ferait Jésus à ma place ?» Mais je crois que le monde est en droit d'attendre de nous qui portons le nom de Christ, de voir Christ en nous. Et ils le feront si nous sommes des chrétiens. Haute fidélité, comme a été Moïse, parce que 14 fois dans l'histoire de l'Exode, et il y a quelque chose qui est dit, je ne vais pas vous donner tous les 14, hein, mais il est question de la fidélité de cet homme-là. Par exemple, dans chapitre 5, verset 1, il est dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon, c'était la toute première audience, et ils lui dirent quoi? Ainsi parle l'Éternel. Pas plus, ni moins. Fidélité. Vous savez, des fois, nous hésitons à témoigner pour Dieu parce que nous pensons que nous devons savoir répondre à toutes les questions, à comment entrer en matière, etc. Et ça devient tout de suite très compliqué dans notre esprit. Mais souvenons-nous que nous n'avons qu'à dire, ainsi par l'Éternel. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il montre la Bible. Nous n'avons pas à argumenter, nous n'avons pas à défendre, nous n'avons pas à, embellir le message de la parole de Dieu, nous n'avons que l'annoncer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a un autre passage que je ne viens pas non plus, mais dans celui-ci, il est question de non pas de ainsi par l'Éternel, mais ils firent Aaron et Moïse ce que Dieu leur demandait de faire. Et donc, ils étaient des hommes en haute fidélité dans le parole, mais aussi dans les actes. Et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu a vu en Moïse, hein, parce qu'il dit dans Nombre, chapitre 12, verset 7, il est fidèle, lui, parlant de Moïse, hein, dans toute ma maison. Et je dis bravo à cet homme-là. Il est fidèle. Il reste dans son rôle secondaire, mais il accomplit ça parfaitement. Je dis bravo, mais je vous dis aussi bravo. Si à la maison, si dans votre lieu de travail, à l'école, je ne sais pas, dans votre voisinage, même ici à l'église, vous accomplissiez fidèlement ce que Dieu vous demande de faire. Fidélité est tellement important. Pour Dieu, Jésus-Christ, il a raconté, bon, le verset ne vient pas, vous pouvez noter le référence, mais dans Matthieu chapitre 25, verset 23, il raconte une parabole d'un maître qui avait donné des dons à ses serviteurs, Et il devait s'en occuper dans son absence. Et puis quand il est revenu, il s'est assis avec chacun à tour de rôle pour en faire le bilan. Et ça, ça a dû être le premier qui arrive, il a donné un bon rapport, et le maître a dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vous confierai de plus grand. » Et c'est ce que je fais. C'est encore celui qui accepte le second droit et qui est très fidèle à le faire, que Dieu élève. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour Moïse. Moïse, au début, il avait un homme devant lui. Oh, peut-être quelques membres de sa cour. Mais le Pharaon, il devait parler à Pharaon. Et après, Dieu lui a demandé de conduire une nation tout entière. Et à l'époque, bon, il y a des estimations qui vont d'un minimum d'un million jusqu'à peut-être 2 ou 3 millions de personnes dans la nation d'Israël. Bon, j'étais fidèle en d'autres choses. Je te confierai beaucoup. Moïse était un homme fidèle. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2, l'apôtre Paul, qui était un des plus grands serviteurs de l'Éternel aussi, il a dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Au reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est quoi? Que chacun soit trouvé. C'est formidable quand on rencontre quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est fidèle dans son service, et puis aussi quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui persévère. Alors le mot persévérance est un mot qui dit que tu ne peux pas l'arrêter, le gars. Il a quelque chose à faire, on lui a confié une tâche, et tu ne peux pas l'arrêter. Et il y a plein de choses qui peuvent nous arrêter, hein, sur notre chemin pour servir le Seigneur. Il y a des déceptions, il y a des difficultés, etc. Et Dieu avait dit à Moïse, tout au début, qu'il aurait affronté le Pharaon, un homme obstiné. Oui, oui, il persistait dans son refus. Mais c'était aussi un homme de revirement constant. Normalement, il disait non, tu peux pas partir. Mais des fois, au vu de certaines plaies, il a dit oui, ben, peut-être que des hommes, mais pas vos animaux, pas vos familles. Et puis tout de suite, il revenait sur ses décisions. Et puis, pas seulement des obstinations et revirements, mais c'était aussi un homme qui menaçait. Et je pense que devant chacune de ces choses-là, j'aurais dit, wow, moi je suis pas sûr si je suis partant. D'ailleurs, en lisant cette histoire, je me posais cette question, accepterais-je de servir Dieu s'il ne disait pas que personne ne m'écouterait? Alors peut-être, vous vous posez la même question, vous vous demandez si le Seigneur est en train de travailler dans votre cœur pour vous préparer à un ministère quelconque. Mais si vous disiez dès le départ, allez-y, allez-y, il n'y a personne qui vous écoutera, hein. Est-ce qu'on persévérerait? Est-ce qu'on commencerait même? Mais Dieu l'a encouragé, je crois, de plusieurs façons, parce qu'il lui avait annoncé à l'avance la réaction de Pharaon. Quand il est arrivé, c'était pas une grosse surprise, hein, que le Pharaon dit, non, tu ne peux pas partir. Il savait, donc il était préparé pour ce refus. Il avait aussi annoncé l'issue finale des confrontations. Il va pas vous essayer de vous empêcher de partir, de vous faire frapper quand même. Et pas n'importe comment. Vraiment, la tête haute et avec de grandes richesses. Et, donc ça a dû l'encourager, hein, à persister, à retourner 10 fois voir ce pharaon. Et puis, le dernier point qui est là aussi, c'est pas seulement la réaction du pharaon, l'issue finale des confrontations, mais Dieu lui a promis sa propre présence pour l'accompagner tout au long du chemin. Je serai avec toi. Oui, je te donne même Aaron, mais moi-même, je t'accompagne et je vais m'assurer que tout ira vers cette fin heureuse. Je pense qu'il a dû être encouragé, mais qu'est-ce qui nous encourage? Aussi à servir le Seigneur. Des fois, on pense que c'est ça. Des fois, on dit, ben, si seulement je savais que Dieu allait tout arranger selon mes idées et en ma faveur, Alors là, oui, il n'y aurait pas de problème. Hein. D'ailleurs, oui, il n'y a plus de difficultés pour persévérer. Et tout le monde aime une vie facile, hein, et où tout marche bien. Non, ça n'arrive presque jamais dans notre vie, Dieu promet ça. Mais je pense que la chose qui nous encourage, c'est comme pour Moïse, c'est de savoir que Dieu, il a déjà tout prévu à l'avance. Des épreuves, comme des victoires. Et de savoir qui va nous accompagner, quoi qu'il arrive, par sa grâce. L'autre est totalement irréaliste. Je dis que c'est irréaliste pour deux raisons. Premièrement, parce que l'histoire montre que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchait pas comme ça. Dieu n'arrangeait pas tout selon Moïse, hein, et Aaron et les Israélites, pas du tout. S'il leur avait posé la question, ils auraient dit « Laissez-nous partir sans jamais avoir à confronter ce roi et puis son armée. » Mais non, ça n'a pas marché. Et il y a beaucoup de personnes, c'est pareil, dans la Bible. Mais c'est aussi irréaliste parce que ça signifierait que c'est moi qui reprend le premier rôle et Dieu qui doit prendre le second rôle. Vous voyez? Et que c'est moi qui dis à l'Éternel, voilà comment je veux que tu accomplisses ton œuvre dans ma vie. C'est pas à nous de donner des ordres à l'Éternel. C'est totalement irréaliste. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit ça à ses disciples, si nous pensons que c'est seulement une histoire ancienne, hein, il a dit ça aussi à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. D'accord? Mais prévenu, hein. Si vous voulez vivre pour Christ, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mes yeux et sa vie. C'est déjà garanti. Il sera là avec nous. Et ainsi, nous pouvons être en paix, en Christ. Donc, voilà comment Dieu agit dans nos vies. Humilité, fidélité, persévérance. Oui. Merci pour ces qualités. J'ai besoin de prier, je ne sais pas pour vous, déjà ça fait trop pour moi, hein. Les élèves me disent, oh là là, Seigneur, tu as beaucoup de peur dans mon cœur pour que Dieu devienne humble, fidèle et persévérant. Mais ce n'est pas la fin. Il y a aussi cette qualité qui n'était pas marquée sur l'autre, mais elle est là maintenant, c'était un homme à la tête froide. Vous vous souvenez de comment il a commencé à vouloir libérer le peuple d'Israël en se laissant emporter par ses propres passions? En voulant prendre des choses en main, lui-même, et il a tué un Égyptien. Mais on ne le voit plus faire comme ça. Maintenant, il agit calmement. Je crois que dans toute l'histoire de la vie de Moïse, à partir de son appel, il n'y a que trois fois où il a un peu perdu cela. Après, à la fin de la neuvième plaie, quand il annonce le dixième, la mort des enfants, le pharaon dit, si jamais tu reviens ici me voir une fois, je te tue. Et la Bible dit qu'il est parti en colère. Mais bon, il n'a pas réagi contre le pharaon. Mais ça a énervé. Il y avait une autre fois, vous savez, quand il devait parler au rocher, et il a pris son bâton, il a frappé, il était tellement énervé. Oui. Mais en réalité, par rapport à ce qu'il était au début, Dieu avait déjà fait une grande œuvre dans son cœur, parce que la Bible dit que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Et c'est l'esprit qui peut le produire. Vous avez du mal, des fois, à rester calme et cool. Je suis le seul qui a un problème avec ça. Ouais. Des fois, il y a des choses qui m'énervent. Il m'a pris de façon à moi. Hein. Mais il le fait. Et c'est important qu'il le fasse aussi, parce que garder la tête froide est essentiel si nous voulons voir la gloire de Dieu. Il a vu, et comment? Et tout Israël, et la nouvelle de tous les miracles qu'il avait accomplis en Égypte, s'est répandu dans tout le Moyen-Orient. Si bien que des années plus tard, Rahab, hein, la prostituée à Jéricho, elle a dit, nous avons entendu tout ce que votre Dieu a fait pour vous faire sortir d'Égypte. Et on a encore aujourd'hui peur. Ah oui. Mais voulons-nous voir la gloire de Dieu?
Oui.
Oui, je pense qu'on serait tous d'accord. Mais sachez que des fois, comme pour Moïse, Dieu laisse empirer des situations mauvaises et ça va de mal en pire pour montrer sa gloire. Je pense à Abraham et Sarah. Vous savez que Dieu leur avait fait une promesse d'un fils. Et vous savez combien de temps ils devaient attendre pour la naissance de ce fils-là? Vous qui êtes déjà en train de vos premiers trucs, vous n'avez pas le droit de répondre. Hein? 25 ans! 25 ans! Et forcément, ils attendaient un enfant depuis beaucoup plus de temps après ça. Depuis sans doute le mariage. Mais Dieu est venu intervenir pour leur faire la promesse. Et pourtant, s'il avait fait la promesse, et si son désir était de leur donner un enfant, pourquoi est-ce qu'il fallait attendre 25 ans? Pourquoi Dieu ne le fasse? On m'a posé quelquefois la question. Si Dieu veut revenir un jour nous prendre auprès de lui, pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Non? Ah, pour manifester sa gloire. Parce que là, ils ont vu croire, ils ont vu à un moment donné qu'en eux-mêmes, ils étaient devenus incapables, totalement, le corps totalement usé, incapables d'avoir des enfants. Et alors là, de la mort, Dieu a fait sortir la vie. Et il leur a montré la gloire d'un Dieu qui est plus grand que nos propres incapacités. Moïse a dû apprendre ça aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit, je ne sais pas bien parler et tout ça, et tu ne peux pas m'envoyer et envoyer quelqu'un d'autre. Mais Dieu a montré qu'il était plus grand que ses incapacités. Et puis je pense à David aussi, pour me dépêcher un petit peu, David il avait reçu aussi une promesse, tu seras le prochain roi sur le trône d'Israël. Mais il devait attendre des années et des années avant d'accéder au trône. Et entre-temps, ils étaient pourchassés par le roi Saül. Il devait même à un moment, déjà, il a mis ses parents à l'étranger pour leur sûreté, et par deux fois, il a cherché à se réfugier aussi à l'étranger, juste pour... C'était devenu tellement difficile pour lui. Vous voyez, Dieu laisse parfois les situations s'empirer, mais finalement, il est montré sur le trône. Vous savez, il y avait deux fois, il aurait pu prendre les choses en main parce qu'il avait à sa merci le roi Saül. Une fois dans une caverne et l'autre fois quand il dormait, et il aurait pu sortir son épée pour le tuer. Il y avait des gens même autour de lui qui l'ont encouragé dans ce sens-là, mais il a refusé de faire. Il dit non, je refuse de toucher à loin de l'éternel. Et le jour est arrivé que, non pas par ses propres ruses ou sa propre force, mais par le bras étendu de l'Éternel, il est monté sur le trône. Oui. Avant et Sarah, ils ont reconnu que Dieu était plus grand que leurs incapacités. David, il a compris que Dieu est beaucoup plus grand de toutes mes adversités. Et quelle que soit la situation, il peut accomplir sa volonté dans ma vie. Et Moïse alors? Eh bien, l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. C'est là où on a déjà retrouvé tout à l'heure. Mais pourquoi? Pourquoi aller vers un homme dont on sait qu'il ne va pas écouter? Pour faire éclater les signes au milieu d'eux. Et pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Il fallait que, tout simplement, qu'il garde le calme, qu'il persévère, qu'il laisse agir Dieu en lui faisant confiance pour diriger les événements à la fin que Dieu avait déterminé d'avance. Vous savez, notre impatience, notre emportement, manque donc de maîtrise de soi, ne rendent jamais gloire à Dieu.
Et pas seulement ça. Ça ne lui permet pas non plus,
ou ne nous empêche,
de voir éclater sa gloire au milieu de nous. Il veut faire peut-être des choses extraordinaires dans notre Église ici, dans votre vie personnelle, mais sachez que ce sera souvent suite à beaucoup de difficultés, parce que Dieu veut se montrer plus grand que vos difficultés, plus grand que vous-même. Et nous aurons de quoi louer, alors, le Seigneur. L'histoire, donc, de Exode est celle de deux cœurs. Il y a le cœur en merci qui a rencontré un cœur maîtrisé par l'Esprit de Dieu. Je vous pose la question, lequel a gagné? Ben, c'est vous, Esprit. Enfin, en réalité, ce n'était même pas lui, c'est l'Éternel qui a gagné dans la terre. Moïse a gagné dans ce qu'il a pu voir la grandeur et la magnificence de Dieu. Alors, voulons-nous voir la gloire de Dieu? Très bien, très bien. Eh bien, suivons le conseil de Jésus-Christ qui a dit, prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis humble, doux et humble de cœur. Nous devons être comme Moïse à cet égard-là. Alors, je vous encourage à laisser Dieu transformer votre cœur. Je lui demande de transformer aussi là où il faut pour que je sois humble, que je sois fidèle, persévérant et aussi le maître et moi-même. En fait, il vaudrait mieux presque dire, je sais que la maîtrise de soi, c'est comme ça que c'est dit dans Galates chapitre 5, mais c'est que Dieu maîtrise mon cœur. Et puis alors, je pourrais être son ambassadeur. Et je pourrais aussi voir sa gloire. C'est-à-dire que Dieu nous encourage tous. Il est grand. Il est plus grand que nos doutes, il est plus grand que nos incapacités, il est plus grand que nos adversités. Et il veut faire du bien à chacun de ses enfants. Prions. Donc, Dieu, merci ce matin pour ta parole qui est tellement riche en enseignement. Merci pour ce temps parce que nous parlons de toutes ces choses ce matin comme un terme qui est à développer. Mais il a vécu. Il a dû confronter ses propres doutes par rapport à lui-même et aller devant ce pharaon et entendre ses refus et ses revirements et même ses menaces. Mais tu l'as encouragé. Tu l'as rendu humble, fidèle, persévérant. Et à la fin, tu lui as montré ta gloire. Merci pour ce que tu as fait pour lui. Merci pour la nation d'Israël. Merci pour chacun d'entre nous. Travaille nos cœurs là où tu sais que nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.